Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Cette fleur, c'est la fleur de la prédicatrice de ce matin. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on l'accueille.
Ça fait une belle décoration, non? Alors, pour la fête des mères, j'avais une petite histoire pour amuser les mamans ce matin. Le jour avant la fête des mères, un homme âgé de Vancouver appelle son fils qui habite à Toronto, il lui dit, écoute, je déteste ruiner ta journée, ok? Je déteste vraiment ruiner ta journée, mais ta mère et moi, nous allons divorcer. 45 ans de misère, là, ça suffit. On est tannés. Nous sommes fatigués de s'endurer. Alors, on appelle ta sœur à Ottawa, puis on lui donne la nouvelle. Alors, estomaqué, le fils vite prend son téléphone, appelle sa sœur à Ottawa. Lui, est à Toronto. Ses parents sont à Vancouver, alors il appelle sa sœur et il dit, « Écoute, maman et papa, on dit qu'ils vont divorcer. Qu'est-ce qu'on fait? » Alors, la sœur a crié au téléphone, « Il n'est pas question! Il n'est pas question qu'ils divorcent! No way! Je vais prendre ça en main, tu me connais, frérot. Moi, je suis capable de faire changer les idées. » Alors, elle appelle immédiatement ses parents à Vancouver. Et là, elle dit à son père, « Tu ne vas pas divorcer, tu m'entends? Tu ne vas pas divorcer, tu ne vas rien faire là. Reste là, assis, fais rien. Moi et mon frère, on arrive. On arrive demain. » Alors, le père, OK, il raccroche. Et il regarde sa femme et dit, « OK, chérie, les enfants vont venir nous visiter à Vancouver pour la fête des mères. C'est arrangé. En plus, le billet, c'est gratis pour nous, c'est eux qui payent. » Alors, j'espère que vous allez avoir une belle fête des mères, que vous allez pouvoir parler ou au moins voir vos enfants ou parler avec eux, avoir un temps de famille. Et laissez-vous un peu gâter par eux et par vos époux. Bon, laissez pas vos époux à inventer une histoire pareille, mais au moins elle a vu ses enfants, cette dame-là. Amen. Alors, aujourd'hui, on continue la série Le Filet, mais pour la fête des mères, on va avoir un petit twist aussi pour la fête des mères. Amen. Alors, j'ai choisi le thème Femme en mission, suivre Jésus dans un monde à l'envers. Alors, suivre Jésus, c'est l'art de garder la tête à l'endroit dans un monde à l'envers. C'est pas facile. Quand tout le monde a la tête à l'envers, pour eux, c'est ça, être à l'endroit. Et quand tu as la tête à l'endroit, bien, pour eux, c'est toi qui es à l'envers. Tout est une question de perspective dans la vie, n'est-ce pas? Tout est une question de perspective. Que nous allons découvrir dans un texte important de l'Évangile, nous sommes dans une réalité absurde dans ce texte, où est-ce qu'un homme aurait été cloué sur une croix, mais ce n'est pas un homme mauvais, ce n'est pas un homme méchant, c'est un homme de bien qui guérissait, qui nourrissait la foule, a été cloué sur une croix. Et on vit encore dans un monde absurde. Je veux dire, Barabbas, qui était le criminel, est laissé aller. L'homme innocent est cloué, condamné. Mais on est encore dans un monde absurde aujourd'hui. Dans le temps de Jésus, les femmes, par exemple, n'avaient aucun droit, étaient considérées comme étant des personnes sans valeur. Encore aujourd'hui, c'est un défi. Un des problèmes le plus commun dans les foyers à Ottawa, c'est les femmes battues, encore aujourd'hui. Dans d'autres pays, il y a des femmes qui n'ont même pas le droit de montrer leur visage, ils sont cachés jusqu'ici, ou ils n'ont pas le droit de même conduire une voiture. Alors, il y a encore des choses qui sont à l'envers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est dans un monde à l'envers. Je n'ai pas besoin d'argumenter plus. Mon point est fait. Amen. je vous blague. Alors, on vit dans un monde à l'envers et on voit comment, au travers des siècles, la femme a été souvent condamnée à être inférieure. La lutte pour la justice continue encore en 2014. Et Dieu nous appelle à le suivre et à propager sa bonne nouvelle malgré les obstacles. Malgré les obstacles d'injustice, malgré les obstacles de les gens avec leur perspective à l'envers, Dieu nous appelle à le suivre dans ce monde à l'envers, mais de rester avec la tête à l'endroit. C'est un or. Alors ensemble, nous allons voir dans le texte de Marc 16 comment des femmes ont été des exemples pour nous dans un temps difficile. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité et n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. J'aimerais juste prier avant qu'on rentre plus dans le texte. Seigneur, on te remercie pour ce matin. Seigneur, on te remercie pour la fête des mères de ce matin, Seigneur. On te remercie aussi parce que dans ta parole, tu as mis, Seigneur, des textes incroyables sur des femmes incroyables aussi qui ont fait des exploits, Seigneur, et sur tes disciples aussi, Seigneur. Et on veut vraiment, Seigneur, entendre ta parole ce matin et l'appliquer à nous-mêmes, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, un adolescent, Seigneur, qu'on puisse vraiment apprendre de toi ce matin et l'appliquer dans nos vies, dans ton nom tout-puissant. Amen. Alors, voici la situation. Moi, j'aime toujours remettre les gens dans le contexte, faire vivre un peu l'histoire pour les gens, parce que des fois, on pense, ah, c'est tellement loin, c'est tellement pas notre réalité. Nous, on a nos voitures, nos téléphones cellulaires, nos iPods, nos iPads, nos iPads, et puis toutes ces choses-là. Et on n'est pas dans la réalité de marcher en sandales dans la poussière puis d'avoir des tombeaux avec des grosses pierres. OK? C'est la réalité. Alors, allons dans le contexte. Les disciples et les Juifs, depuis longtemps, attendaient un Messie. Ils avaient hâte d'avoir ce Messie, les délivrer, puis eux, dans leur tête, délivrer des Romains. C'était leur gros problème parce qu'ils étaient opprimés. Quand tu es opprimé, tu veux juste être libéré. Alors, ils ont vu Jésus, ils ont vu les miracles, ils ont vu les pains multipliés, les poissons multipliés, ils ont vu des aveugles nés avoir des yeux, ils ont vu des morts ressuscités, ils ont dit « Wow, on a le gars! » Lui, là, « the untouchable ». Mais là, il y a un problème, il y a un drame qui arrive. Il est arrêté, puis il ne se défend pas. Quand Pierre coupe l'oreille, il dit « Fais pas ça », il guérit l'oreille. Là, c'est comme un peu compliqué pour Pierre à comprendre dans sa tête. Il a fait comme des
coup de circuit dans son cerveau, ça ne marchait plus. Alors, il a renié par après 3 fois. Et il y a toute une situation qui se fait là ici. Il y a comme, il se fait abattre, il se laisse faire, il se défend pas, il se fait amener à la croix, il descend pas de la croix, on se moque de lui. Et c'était comme amener une peine capitale. C'est comme si on dit que le gars que tu aimes, que tu suis, la personne que tu aimes, que tu suis ton maître, ton leader, se fait mettre sur une chaise électrique par le gouvernement. C'est bizarre, là. Vous avez honte, là. Hey, moi, ils vont reconnaître que je le suivais, là. Hein? Tu vas vouloir te cacher. Et c'est ce qui arrive un peu aux disciples. Parce que leur espoir, c'est lui le gars, puis on dit à tout le monde, « Ah, moi, on l'a trouvé, nous autres, on sait c'est qui, il vient de Nazareth, je sais, c'est bizarre, mais en tout cas, on l'a trouvé. » Puis là, il meurt. Pas n'importe quelle mort. Public, devant tout le monde. Suspendu, sur du bois, à moitié nu, si pas nu. Et eux, c'est comme, waouh! Mais les femmes étaient à la croix tout le long. Des disciples femmes. Et ils ont été jusqu'à voir où est-ce qu'ils étaient placés. Le dimanche, dès que le sabbat finit, sont les premières à se rendre. Et moi, ma question, c'est pourquoi? Est-ce qu'ils font ça? Les disciples se cachent. Eux, ils ne veulent pas sortir, là. Ils ont peur. Regardez, c'est verrouillé. Là, ils sont comme le lion avec les 2 pattes cachées, là, en dessous de ses pattes. Là. Ils ont peur. C'est des hommes, mais ils ont peur. Ils ont peur des conséquences. Ils ont peur d'être arrêtés, d'être reconnus. Mais les femmes, ce matin-là, ont le courage d'aller embaumer Jésus dès le lever du soleil, certainement. J'imagine qu'aucun des hommes, quand ils ont dit aux hommes, on s'en va là, ils ont dit, êtes-vous folle? Êtes-vous folle? Certainement, ça ne dit pas dans le texte, j'imagine la scène. Mais ils sont allés. Alors, ces femmes avaient une mission impossible. Suivre Jésus dans un monde à l'envers, comment pouvons-nous encore aujourd'hui suivre Jésus et lancer nos filets en tant que mère, que père, qu'adulte et que jeune dans un monde à l'envers où les valeurs et les priorités sont inversées. Premièrement, pour suivre Jésus, il faut avoir les bonnes priorités et les bonnes valeurs fondamentales. Quelles sont tes priorités et tes valeurs fondamentales? Si tes priorités sont les mêmes que ceux qui sont à l'envers, ben, tu risques d'être inefficace pour le royaume de Dieu. Tu vois, il ne faut pas avoir les mêmes valeurs que le monde. En quelque part, les disciples, il y avait encore des valeurs fondamentales erronées. Parce que c'était trop basé sur le succès de telle personne. Pourtant, la croix, c'est un échec à la vue humaine. Il faut se l'admettre. Oui, c'est un succès, nous on le sait, parce que c'est comme ça qu'il a payé. Mais nous, on a des yeux humains. Des fois, on peut juger des gens qu'on pense que c'est un échec, mais c'est vraiment... Dieu va se manifester dans cet échec. Alors, eux ici, il y avait assez, il y avait une bonne valeur, ces femmes avaient une valeur différente. S. Barnett dit, « Femme, dernière à la croix et première au tombeau. » C'est le diapo 13. Dans Marc 15, on voit vraiment que à la fin de Marc 15, parce que là, on a lu Marc 16 au complet. Donc, juste à la fin, le dernier verset de Marc 15, ça dit que les femmes, dont Marie de Magdala, Marie, mère de Joseph, regardèrent où Joseph d'Arimathée déposa Jésus et virent la pierre qu'il roula juste avant le sabbat. Après que le sabbat fut passé, c'est là qu'ils sont allés de grand matin. Donc, dès le lever du soleil, le sabbat termine. Et c'est pour ça qu'ils se sont rendus dès le matin. Mais même si Jésus est mort, et ça me, vraiment, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, waouh, Jésus est mort, c'est le désespoir, c'est la catastrophe. Il aurait pu dire, lui, on l'a cru, puis il nous a menti. Oh, lui, il a dit qu'il était le Fils de Dieu, comment ça, il est mort? C'est le Fils de Dieu qui est mort, mais il est quand même, à sa mort, dans son échec, leur priorité. Ça, c'est quelque chose. Il est leur priorité. Elles sont motivées par leur amour pour Jésus de se rendre à son tombeau. Elles vont là sans l'aide de personne, car elles sont des femmes en mission. Suivre Jésus, s'occuper du corps de Jésus, quitter le confort et la sécurité de leur cachette pour risquer leur peau, aller prendre soin du corps d'un condamné, d'un blasphémateur condamné et tué par la pin-pen, la crucifixion. Mais ils investissent avec de l'argent, ils vont acheter des aromates, ils investissent avec leur argent, avec leur temps, avec leur passion, avec leurs émotions, avec même leur intellectuel de comment on va faire. Mais ils veulent y aller et ils vont, même s'ils ont des doutes, ils vont. Ils vont de grand matin et c'est des femmes comme nous et moi, là, c'est des mamans. On dit mère de. C'est des mamans. C'est des femmes ordinaires qui vont faire quelque chose pour eux qui est tout à fait normal, qui n'est pas devant les gens. Il n'y a pas une foule là pour acclamer « Waouh, vas-y, c'est ça! » Non, ils sont même traités de folles certainement pour ce qu'ils font. Et ils le font. Et elles continuent à le prioriser, à prioriser Jésus malgré leurs déceptions et leurs doutes. Moi, j'ai réalisé, ce n'est pas des superwomen, là. C'est des femmes comme moi, comme toi, qui avaient des valeurs fondamentales différentes. Différentes. C'est ça qui fait la différence. Ils avaient vraiment les yeux sur les bonnes priorités. Ils étaient motivés par l'amour. Maintenant, en tant que mère, qu'épouse, que mari ou père, que jeune adulte ou adolescent, peu importe ce que tu es, est-ce que Jésus est ta priorité et son royaume dans ton foyer, dans ton église? Est-ce que Jésus est ta priorité dans ton travail, dans ta ville, dans ton pays? Est-ce que tu fais ce que tu fais avec une bonne motivation? Est-ce qu'ils sont bien établis, tes priorités? Où investis? Et comment tu le sais? Où est-ce que tu investis ton temps? Où est-ce que tu investis ton argent? Où est-ce que, et si on avait à regarder ça, où est ta priorité? Quelles sont tes priorités? Ton énergie, où est-ce qu'elle va? Tes prières, où est-ce qu'elles vont? Comment engagé émotionnellement es-tu dans certaines choses? Tu le sais où est-ce que c'est ta priorité? Parce qu'on est des êtres complexes. On a le côté intellectuel, émotionnel, spirituel, et on ne peut pas les mettre en compartiment. C'est tout interrelié. Tu ne peux pas dire, « Ah, là, j'ai ma boîte spirituelle, là, je fais les choses de prière, puis là, oups, ça, c'est ma boîte émotionnelle, puis ça, c'est ma boîte relationnelle, puis ça, c'est ma boîte, puis je peux agir de même comme ça dans mon relationnel, mais pas affecter mon spirituel. » Non! Parce que comment je traite mon époux, c'est comment je traite Jésus. C'est de la misère avec ça. Imagine-le en Jésus, puis tu vas commencer à mieux le traiter. Ou inversement, si pour ta femme, comment tu la traites? C'est comme quand tu traites Jésus. Ou tes enfants, oh, ça, c'est pas toujours facile. Ou les parents, ou les enfants, vos parents. Hein, cette belle fête des mères, comment tu traites maman? C'est comment tu traites Jésus. Amen. Et ces femmes étaient conscientes de ces petites choses-là. Puis quel avantage avait-elle de faire ce qu'elle faisait? Quel avantage, quel gain allait-elle gagner? Quel est le gain d'aller embaumer Jésus, de risquer de faire face à des soldats romains, risquer le viol même, risquer toutes sortes de choses parce qu'ils n'étaient pas protégés par des hommes. Là, ils étaient seuls, des femmes, puis on avait placé des soldats romains à la tombe. C'était dangereux. Eux n'avaient pas le droit, là. Eux, ce n'est pas des citoyens romains. Pour les Romains, c'est des chiens, les Juifs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils vont là, risquer leur vie. Dieu était vraiment leur priorité. Jésus était vraiment leur priorité. Et encore là, où est-ce qu'on investit? Est-ce que nos relations familiales sont nos priorités? On le voit au travers de ça. Eux, leur relation avec Jésus, là. Eux, ils savaient. Marie de Magdala, elle savait ce qu'était là, avant qu'elle rencontre Jésus, là. Elle savait d'où elle venait. Et elle savait que peu importe ce qui est arrivé à cet homme-là, il a fait une différence pour moi, et moi, je vais être là, pour lui. Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aller suivre Jésus? J'avais vu une vidéo la semaine passée ou la semaine avant, j'en étais un peu bouleversée. Ah, c'est un homme, un prédicateur, qui montre des vidéos de personnes persécutées dans d'autres pays, dont l'Inde, des chrétiens. Et les scènes que j'ai vues, ça m'a vraiment ébranlé, des atrocités, des gens qui frappent des chrétiens d'une manière incroyable. Et les scènes faisaient que jouer dans ma tête. Et ce qu'il disait, ce gars-là, ça m'a fort touchée parce qu'il dit, en Amérique du Nord, c'est facile pour nous d'acclamer des prédicateurs, d'enclamer des gens qui sont sur le stage, puis de voir comme nos héros. Mais ces gars-là qui se font battre, qui se font maltraiter, on s'en fiche. Pourtant, c'est eux les vrais de vrais. C'est eux qu'on devrait acclamer, des martyrs. Puis c'est ça que je vois dans ces femmes, elles sont prêtes à tout pour Jésus, même s'il est mort, même si dans les circonstances, Dieu ne répond pas comme tu voulais. Souvent, quand Dieu ne répond pas comme on veut, on est fâché, on a de l'amertume envers Dieu, on lui donne le point. Mais eux, ils vont là, ils vont à la tombe. Lorsque tes priorités sont bien établies, tu vas être différent des autres. Parce que tes priorités vont être puisées dans tes valeurs. Puis si tu as des bonnes valeurs, tu vas avoir des bonnes priorités. Et Bill Hybels, c'est un prédicateur américain que j'aime beaucoup, un auteur, et il dit « Comment être un chrétien contagieux? » Il a écrit un livre d'ailleurs, il a fait même des cours « Comment devenir un chrétien contagieux? » Et dans son livre, il écrit un texte. Il dit « Récemment, j'ai vu une lettre écrite par un nouveau croyant à la personne qui l'avait influencé dans son cheminement vers la foi en Christ. Cette personne a répertorié une liste et énumère une douzaine de qualités qu'elle trouve contagieuses dans la vie de ce chrétien contagieux. » Elle dit « Wow! » Et elle écrit une lettre à ce chrétien qui l'a influencé à devenir chrétien, en autre mot. « Vous savez, voici ce qu'elle écrit. « Vous savez, quand nous nous sommes rencontrés, j'ai commencé à découvrir une nouvelle vulnérabilité, une chaleur et une absence de prétention qui m'a fort impressionnée. J'ai vu en vous un esprit florissant avec une absence totale de stagnation interne. » Tu étais quelqu'un de croissance. Comme je pourrais dire que vous étiez une personne en croissance continuelle et j'ai aimé ça. J'ai vu que vous aviez une forte estime de soi, non pas comme étant reposée sur des découvertes dans des livres, comment avoir une estime de soi, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai vu que vous viviez par des convictions et des priorités et pas seulement par commodité, plaisir égoïste ou le gain financier. Et je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça avant. Je sentais en moi un amour profond et le souci. Je sentais en toi, un amour profond et le souci sincère de m'écouter et de ne pas porter de jugement rapide. Vous avez essayé de me comprendre, vous avez sympathisé, vous avez célébré avec moi, vous avez fait preuve de bonté et de générosité, et pas seulement à moi, mais à d'autres personnes aussi bien. Et vous représentiez toujours quelque chose, une cause importante. Vous étiez prêt à aller à l'encontre de la société pour ce que vous croyez être vrai, peu importe ce que les gens diraient, peu importe combien cela vous coûterait. Et pour ces raisons, et pour toute une foule d'autres, je me suis retrouvée à vraiment vouloir ce que vous aviez. Maintenant que je suis devenue chrétien, je voulais vous écrire pour vous dire que je suis reconnaissant au-delà des mots pour la façon que vous avez vécu votre vie chrétienne devant moi. » Alors, cette personne a été touchée, sérieusement touchée, par le témoignage contagieux de la personne. Et avoir les bonnes priorités, ce n'est pas dans le spectaculaire. Ce n'est pas devant toute une foule qu'on sait quelles sont tes priorités. Ce n'est même pas dans la foule qu'on sait quelles sont tes priorités. C'est basé sur tes valeurs fondamentales. Et j'avais vu une émission, Pure Land, c'est au diapo 17. Une fois, une émission Pure Land qui m'avait fait rire. Parce que c'est une mère. Et c'est comme un couple mixte qui ont adopté une petite fille. Et la dame voulait vraiment passer du temps avec sa fille de qualité. Alors, elle s'achète un livre. Comment passer du temps avec ta fille? Et ce qui est drôle, c'est que pendant toute l'émission, sa fille cogne à la porte. « Oh, maman, tu veux-tu venir jouer au tennis avec moi? J'ai besoin de pratiquer mon tennis. » »« Oh non, pas tout de suite, chérie, je suis en train de lire un livre important. » Et là, une autre situation arrive, où est-ce que sa fille a besoin d'elle encore pour de quoi faire une activité? « Oh, maman, je m'ennuie, veux-tu jouer aux échecs avec moi? » »« Oh, écoute, là, je suis en train de lire un livre important, comment passer du temps avec toi? » Et elle continue à lire son livre. Et à la fin, elle finit son livre, elle dit à son époux, « Vraiment, je sais comment le faire maintenant. » Et elle cogne à la porte de sa fille, elle dit, « Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? » Sa fille ferme la porte. Elle avait eu plein d'occasions, puis elle les a loupées. Parce qu'en quelque part, ses priorités étaient un peu mélangées. Oui, elle voulait, mais les occasions étaient là. Alors, il faut faire attention. Des fois, on est capable d'être très comme dichotomique dans ce qu'on dit ou ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et des fois, c'est ce qu'on fait, même avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une bonne illustration. Parce que c'est la même chose avec Dieu et Dieu se retrouve dans tous les petits détails de nos vies. Comment on traite nos enfants, notre époux, notre épouse, nos frères, nos sœurs, nos amis, notre patron, les autres croyants ou nos voisins. Alors, lorsque nous avons les bonnes priorités pour suivre Jésus, il faut y ajouter la foi. Car pour suivre Jésus, il faut prendre des risques, des pas de foi. C'est le prochain diapo. Il faut préparer les filets. Prépare tes filets. Puis à l'Église Nouvel Espoir, on a dit en 2014, on change l'atmosphère, c'est comment on prépare les filets. Préparer les filets, ça peut dire plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que chaque geste de foi a de la valeur aux yeux de Dieu. Les petites choses peuvent devenir grandes. La nature nous l'enseigne. Une graine de moutarde peut devenir un arbre. C'est petit. C'est invisible à l'œil quand c'est enterré. Ça meurt, et là ça pousse. Et c'est très vulnérable au départ, comme cette plante qu'on voit derrière moi. C'est très vulnérable. Il faut l'entretenir. Et c'est important. Les petits commencements sont importants. Et Dieu nous dit aussi, dans sa parole, d'imiter les fourmis. Eleanor Roosevelt, épouse du président Franklin Roosevelt, a dit, « Tu dois faire les choses que tu ne pensais pas pouvoir faire. » Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, il faut prendre des pas de foi. Pourquoi? Parce que l'évitement du risque, c'est le plus grand risque de tout. Il y a des temps dans la vie où il faut risquer. Il y a des temps dans la vie où il faut risquer. Les femmes, au verset 3, dans le prochain diapo, se demandaient entre elles qui allait ouvrir la pierre. Mais ceci ne les a pas empêchés de se rendre premièrement sur scène. Ils ne savaient pas qui allait ouvrir la pierre. Ils ne savaient pas s'ils étaient capables de persuader des soldats romains de le faire au danger de leur vie. Ils ne savaient pas comment ils allaient y arriver, mais il y avait ce désir bouillant en eux d'aller acheter des aromates, de se rendre là-bas, et Dieu pourvoira. Des fois, c'est dans ce temps que Dieu se manifeste. Est-ce qu'ils auraient vu l'ange s'il serait resté caché? Est-ce qu'ils auraient vu l'ange s'il serait resté caché? Mais malgré les obstacles, il y en avait des obstacles, il y en avait des raisons de ne pas y aller. Il y en avait plus de raisons de ne pas y aller que de raisons d'y aller. Soyons logiques. Il y en avait plus, mais ils sont allés. Ils ont fait un pas de foi et ils sont allés. Et ils savaient qu'il vaut mieux essayer et échouer que de ne rien faire. Pour eux, ce n'était pas grave si on échoue, au moins on est allé et on a fait notre possible. Mais des fois, on a trop peur de l'échec. Puis Dieu veut vous délivrer ce matin de la peur de l'échec. La peur de l'échec paralyse. Il faut arrêter ça. Alors, ils savaient qu'il fallait mieux essayer. C'est d'ailleurs seulement ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. C'est ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Mais si tu fais des choses, tu vas échouer, mais le juste se relève. Il se relève même s'il tombe 7 fois, 10 fois, il se relève. Le fou tombe, reste. Il reste tombé. Pour lui, c'est fini. Son orgueil est écrabouillé. Pourquoi? Parce qu'elles avaient l'humilité. Quand tu as l'orgueil, tu ne vas pas essayer. Oh, tu as trop peur, les gens vont vous dire quoi, là? Je ne suis pas pour échouer devant des gens, moi. Alors, l'humilité. Elles avaient l'humilité de prendre des risques. Hey, imagine la scène s'ils vont là, puis ils sont pas capables d'ouvrir la pierre, ils reviennent, puis les disciples se moquent d'eux. Possible. C'était une grande possibilité. C'est genre une 99,9% pour eux, là. Sérieusement. Est-ce qu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'ils ont vu? Comme un pêcheur doit préparer six filets dans l'espoir d'attraper des poissons, rien n'est certain sur terre, mais Dieu honore toujours ceux qui sont prêts à croire en lui, en sa providence devant l'appel qu'il place sur leur vie. Dieu te met un appel sur ta vie, c'est beau, mais il faut que tu bouges. Amen. Si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien, rien, rien qui va se passer. Comme le dit si bien Isaac de Nessine, lorsque tu as une grande tâche difficile ou même impossible, si tu y travailles un peu à la fois, un peu chaque jour, le travail va s'accomplir comme de lui-même. Et les mamans disent amen pour le ménage et le dilemme de continuellement ramasser derrière leurs enfants. Par la foi, Seigneur! Ces femmes ont pensé que leur action est importante pour le futur et ne se sont pas accrochées aux aspects négatifs ou impossibles de leur tâche ou leur mission. Mais pensaient à comment ils pouvaient, dans ce drame, faire des actions pour rendre la situation meilleure. C'est des personnes de foi d'action, j'aime ça. Ils ne sont pas assis, puis « Ah, mais lui, là, il nous avait dit, puis... » Comme des commérages que certaines femmes aiment faire. Non, elles étaient des femmes d'action. Elles étaient vraiment comme des fourmis. Pourquoi? Parce qu'elles n'attendaient pas que quelqu'un leur donne d'agir, de faire des pas de foi, des risques. Personne ne dit à ces femmes « Allez embaumer Jésus ». Dans Proverbes 6:6-8, ça dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Comme des fourmis qui n'ont pas besoin qu'on leur dise toujours quoi faire pour qu'ils fassent quelque chose pour leur communauté de fourmis, bien sûr. Pour leur communauté, ils savent, tout le monde est en action. Il n'y a personne qui chôme chez les fourmis. Il n'y a pas de chômeur. Et ils sont tous en action. Ils ont tous un sens de responsabilité. Et par la foi, ils font les choses. Moi, j'ai vu une scène à 900 fois la vitesse de vie. Okay? Comment les fourmis sont. C'est juste des petits morceaux de sable, des fois, qui bougent. Mais quand tu le vois en fast-forward, comme on dit, en vitesse rapide, c'est incroyable, ils sont dans les gens les mettent dans une genre de plaque, là, c'est comme une ferme de fourmis, et ils te creusent des tunnels incroyables à une vitesse, tu vois ça, mais tu vois des fourmis qui bougent partout, puis le trou se fait, et c'est incroyable, et j'ai dit, waouh, mais ils ont de la foi ces fourmis-là. Puis toute tâche est importante. Il n'y en a pas un qui dit, pfff, toi, qu'est-ce que tu fais? T'es même pas bon. Tout le monde est important. Et ça, c'est l'Église de Dieu. J'ai dit, wow, quelle démonstration de l'Église de Dieu en action. Wow, si tout le monde fait sa part, hey, les choses bougent. Wow, j'étais vraiment passionnée quand j'ai vu les fourmis. J'en voulais même une pour moi, mais je n'ai pas demandé à mon mari. Une ferme de fourmis pour voir ça, c'est trop cool. Mère Teresa a dit, tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que tu ne peut pas faire. Et ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Comme les fourmis. En soi, c'est à cela que l'apôtre Paul fait allusion dans son épître aux Corinthiens. Chacun a des choses à faire, mais chacun doit prendre des risques, des pas de foi. C'est dur de porter un corps mort sur ton dos. Puis quand t'en as 10 à porter, c'est encore plus lourd. On fait une chaîne de corps morts qui font rien. Qui croient plus, puis qui sont... désespéré. C'est lourd. Hein? On va prendre un baco. Mon père, est-tu un baco en quelque part qui traîne? On va prendre un baco, on va les tirer. Non, Seigneur, il dit, on va les réanimer par la foi. Amen. La foi, prends des risques. Vas-y, tu es capable. Et chacun est important. Mais plusieurs croyants ont cette mentalité qu'il faut qu'ils attendent le grand réveil. Le grand réveil sans rien faire. Et ils préfèrent innocemment jouer à la cigale au lieu d'être la fourmi. Vous connaissez, hein? La cigale et la fourmi. Mais nous, on n'est pas des cigales. Même s'il y en a qui chantent bien, là, je ne veux pas dire que chanter. C'est des fourmis qui chantent. OK, Ernest, c'est une fourmi quand même qui... OK. Alors, depuis, comme je disais, le début de l'année, Dieu a vraiment placé à nos cœurs qu'on devait prendre des risques, même financiers, pour changer l'atmosphère, faire des changements. Et c'est comme dire un pas de foi, dire, Seigneur, on prépare nos filets, on lance. Toi, c'est Jésus qui met les poissons dans le filet. Plusieurs fois, Pierre lançait, puis il n'y avait pas grand-chose. Lui, le grand pêcheur, et c'est Jésus qui lui a donné la solution. On tourne, lance à droite, lance à gauche. Et voilà, tu sais, c'est arrivé. Alors, on doit lancer les filets. Et c'est des fois stressant de prendre un risque. Des fois, tu vis des doutes quand tu prends un risque. Mais c'est un pas de foi. Et tu ne peux pas savoir ce qu'il y a l'autre bord. Tu vois, quand je regardais le tunnel avec les fourmis, c'était incroyable. Ils ne savaient pas là, s'ils allaient frapper un mur de ciment au bord. Là. Mais ils y allaient. Ils y allaient à vitesse. Vous pouvez aller dans YouTube, dans Ant Farm, puis c'est incroyable. Ça creuse, ces affaires-là. Je ne savais pas que ça creusait aussi vite que ça, mais à 900 fois la vitesse, c'est sûr, mais c'était incroyable, c'est beau à voir. On a tous cette capacité. Mais Dieu n'aime pas quand son peuple cherche son propre confort et la stagnation. Mais il recherche des gens prêts à se donner totalement dans la mission qu'il nous confie jour après jour, tâche après tâche, peu importe la grandeur de cette tâche. C'était impossible pour ces femmes de rouler la pierre. C'était impossible pour ces femmes. La situation était dangereuse même. Mais ils sont allés. Un pas de foi. Et on fait un pas de foi, tâche après tâche. Et si chacun fait sa part, c'est incroyable les changements qu'on va voir. Et il y a peut-être des situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui où tu es capable de surmonter. Tu as peut-être vécu une séparation, un divorce, deux divorces, peu importe. La perte d'emploi. Tu as peut-être des difficultés d'intégration ou d'immigration. Tu as peut-être un adolescent délinquant à la maison. Tu as peut-être des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Tu as peut-être des problèmes de maladie dans ton foyer. Quelqu'un est malade. Peu importe ton défi. Peu importe. Dieu le connaît et Dieu sera avec toi. Encore plus si tu es prêt à prendre des pas de foi. Des fois, il va dire, fais ça, puis tu es comme, ah, c'est fou, je ne peux pas faire ça. C'est malade. Mais quand Dieu le met dans ton cœur, agis. Il faut prendre les risques nécessaires pour voir ta montagne se faire désintégrer. Une graine de sable à la fois, comme les fourmis. Une graine de sable à la fois qu'on bouge, fait toute une différence. Une graine de sable à la fois. Prépare tes filets, transforme l'atmosphère de ton foyer, de ton travail, de ton lieu de travail, de ton église. Ici, participe. Sois le thermostat, puis pas le thermomètre. Que s'il fait froid, tu deviens froid. S'il fait chaud, tu deviens chaud. Non, s'il fait froid, deviens chaud. Amen. J'ai un mari en feu ce matin. Lorsque nous prenons des risques, des pas de foi pour suivre Jésus, il nous faut aussi, pour suivre Jésus, il faut surmonter la peur et rechercher la présence de Dieu qui nous fortifie devant les épreuves et le rejet. Il faut avoir confiance en sa parole, que ce qu'il dit, il accomplira. Et c'est comme ça qu'on va surmonter la peur de ce qu'on vit. Comment? En persévérant dans l'humilité et en se rappelant que nous sommes les messagers, des porte-paroles et des miroirs de la bonne nouvelle. Il faut donc s'attendre à la possibilité d'un rejet du message incroyable que nous portons, mais sans rancune, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si on rejette, on te rejette, on rejette qui?
Christ.
Prends-les pas personnels. Non, mais c'est vrai, prends-les pas personnels. C'est pas toi qu'on rejette, c'est Christ qu'on rejette en toi. Et parfois, tu vas avoir des problèmes, même à ton travail, même parce que tu es différent, parce que tes valeurs fondamentales, tes priorités ne sont pas les mêmes qu'eux. Ils peuvent te rejeter. Certains vont être attirés, certains vont être fâchés. C'est pas tout le monde qui est côté de Jésus. La preuve, ils l'ont crucifié. Il n'était pas le gars populaire à 100%, là. Il y avait des ennemis. Comme le dit Henry Bayard Swope, il dit, « Je ne peux te donner la formule du succès, mais je peux te donner la formule de l'échec. » Cherche à plaire à tout le monde. Cherche à plaire à tout le monde, puis ça, c'est la formule de l'échec. Et c'est vrai, quand on obéit à l'appel de Dieu puis qu'on propage notre foi, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Tu risques d'être parfois rejeté, ridiculisé. S'ils l'ont fait au maître, ils vont le faire à toi, comme disciple. Oui. Dans Marc 16, 4, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée, elles entrèrent, puis tout ça, puis l'ange leur parle. Puis à la fin, ça dit au verset 8, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne disent rien à personne à cause de leur effroi. Donc là, ils ont eu peur. Puis, tu sais, tu dis, pourquoi ils ont peur? Deux choses. Un, on ne voit pas des anges tous les jours. On ne voit pas une résurrection tous les jours. Puis là, ils disent, déjà, ils nous traitaient de folles d'aller. On revient pour leur raconte ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'on a perdu la tête, puis c'est vrai, là. Ou on invente une histoire pour ne pas avoir l'air ridicule, qu'on n'a pas été capable de rouler la pierre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? En quelque part, c'est comme, comment ils vont nous croire? En plus, pourquoi Dieu nous envoie nous? On est des femmes. Ils n'ont même pas le droit d'être un témoin dans la cour, une femme. Tu vas être témoin d'une résurrection? Comment ils vont te ridiculiser? Alors, ils sont devant une tâche impossible d'ouvrir, de tourner la pierre. Puis Dieu leur donne une tâche encore plus impossible d'aller parler à Pierre et aux disciples. Mais ils vont le faire. Éventuellement, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de faire une tâche impossible. Ils vont être capables de faire une tâche encore plus impossible. Ils ont déjà passé le premier test. Ils ont des muscles pour le deuxième. Alors, ils devaient aller le dire à Pierre. Pourquoi est-ce qu'on précise Pierre? Selon les théologiens, c'est pour démontrer que Dieu pardonne Pierre et qu'il fait encore partie des disciples, même s'il le renie. Et il dit, « Je vais vous voir en Galilée. » Il dit que je précède en Galilée. Alors, dans Luc 24, 9 à 12, on voit que dans le texte de Luc, il nous démontre que ces femmes, ont eu, c'est vrai qu'elles ont eu peur, mais ils ont surmonté leur peur. Ça ne le dit pas exactement dans Marc 16, mais dans Marc 12, ça dit, « À leur retour du sépulcre, elles, au pluriel, annoncèrent, ENT, toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. » Celles qui dirent ces choses, alors là, il va encore plus avec précision, aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc, il y avait quand même une petite gang de femmes qui sont allées là, puis qui sont revenues, puis qui ont donné la nouvelle. Mais au début, il y en a qui ont été comme, oh, comment on va dire ça? Comment on va faire? Est-ce qu'on a vu une vision? Est-ce que je suis malade? Peut-être que je vais aller prendre ma température. Peut-être que j'ai une fièvre, une gastro, quelque chose. Et ça dit que les disciples tinrent ces discours pour des rêveries. Des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, et ne vit pas les linges. Il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Malgré le rejet de leur témoignage, ces femmes ont témoigné de ce qu'elles avaient, ils ont vu avec conviction, mais ils ont surmonté leur crainte pour obéir à la mission de Dieu. Et ils ont payé le prix d'être ridiculisés. Mais même à ça, ils ont eu une bonne attitude envers les disciples. Tu ne vois pas dire, « Ah, oh, nous, on savait, on vous l'avait dit. Hein, gang de peureux. » Il n'y avait pas cette attitude. Pourquoi? Parce qu'ils sont humbles. Parce qu'ils ont un esprit humble. Ils ne sont pas là pour, oh, moi, je suis meilleur que, nanana. Ils avaient un respect envers même ceux qui les avaient rejetés au départ et traités de folles. Et ça, j'admire ça. C'est de la classe. C'est de la classe. C'est comme ce qui est arrivé à Subban au Rocky, puis il a gardé sa, Il a gardé de la classe, il était au-dessus de la mêlée de ceux qui ont dit des mauvaises choses à cause du racisme. Alors vraiment, moi, je vois ça puis je dis, waouh, je veux être comme ça. Je veux avoir cette classe devant les gens qui, des fois, manquent de classe, d'avoir de la classe et de ne pas vraiment laisser l'amertume dans ton cœur, de juste laisser ça passer. Puis une chose qui est intéressante, c'est que l'ange a dit, il vous précède en Galilée, mais c'est clair que les disciples ne vont pas aller en Galilée. Pourquoi? Parce que, un, ils n'ont pas cru les femmes. Donc, Jésus est obligé d'apparaître à des hommes. Deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, ensuite les onze, ensuite encore, il y a eu des apparitions. Et c'est tout autour de Jérusalem, jusqu'à temps que là, ils sont convaincus que Jésus est vraiment ressuscité et qu'ils se rendent en Galilée. Donc, c'est la réalité de la résurrection. Et Dieu avait vraiment rencontré des femmes de courage. Je pense que ça dépendait juste des femmes qui ont vu au début. Peut-être qu'ils seraient rendus tout de suite en Galilée. Mais les hommes n'ont pas été assez vite convaincus dans cette situation. Dieu a rencontré des femmes de courage qui s'engageaient déjà d'aller avant même d'avoir la pleine provision pour l'accomplissement de leur mission. C'était des femmes de foi et d'action. Elles ne bronchaient pas devant la mission impossible. Et je trouve ça admirable. Puis dans Marc 16, 14, ça dit qu'enfin, quand Jésus va apparaître, il va réprimander ceux qui n'ont pas cru. Il réprimande ceux qui n'agissent pas avec la foi et qui ne prennent pas des risques. Il les réprimande ici. Il dit, « Hey, vous avez eu la dureté de cœur. Vous étiez incrédules. Ces femmes-là ne vous mentaient pas avant. Pourquoi ils vous auraient inventé une histoire-là? » Mais ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient vu ressusciter. Je le sais que c'est dur à croire que quelqu'un ressuscite. Cependant, Jésus les a réprimandés. Alors, est-ce que tu laisses la peur te paralyser dans la même mission que Dieu nous donne aujourd'hui? Es-tu prêt à partager ta foi avec ceux qui t'entourent? Et la chose qu'il faut se rappeler, c'est quand les gens te ridiculisent, ne sois pas affecté. Jésus s'est occupé de la situation. Quand il est apparu à ces hommes, il leur a réprimandé. Il a dit, pourquoi? Alors, en quelque part, si on te blesse, puis on dit, si tu es là avec plein de foi, on va aller faire ça, puis on dit, oui, on donne, tu n'es pas capable de faire ça. Écoute, fais juste, OK, merci, puis tourne-toi de bord, puis continue. Pourquoi? Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Toi, ne viens pas comme, comment ça? Puis, parce que là, toi, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Et c'est ce que ces femmes ont fait. C'est ce que ces femmes ont fait. Comme le dit Elbert Hubbard, pour éviter la critique, ne fais rien, ne dis rien, ne sois rien. Ne fais rien, ne dis rien, ne sois rien pour éviter la critique. Mais ce n'est pas ça à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, à avoir une identité. On ne peut pas accepter d'être rien. Et c'est pour cela qu'on doit apprendre à faire face à la critique. On doit apprendre à faire face au rejet. C'est la réalité de la vie. Lorsque nous surmontons la peur et faisons confiance à Dieu, nous pouvons suivre Jésus et reconnaître sa volonté et lui obéir malgré le prix. Just do it. Fais juste le faire. Quand ça vient, Dieu te dit, vas-y, vas-y. Tu as peur, oui, eux, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Deux fois, on voit leurs inquiétudes. Qui va rouler la pierre? Puis après ça, quand ils ont la nouvelle, la peur les saisit. Deux fois, ils ont eu une certaine crainte, mais ça dit qu'ils sont allés le dire. C'est clair, ils sont allés le dire. Et l'ange leur dit, allez le dire à ses disciples et à Pierre. Mais c'est incroyable, ces femmes sont devenues les premières évangélistes. C'est ça! Proclamer la bonne nouvelle, c'est ce qu'ils ont fait. C'était les premières évangélistes. Ils sont allés courir dire à Pierre et aux disciples, « On a vu un ange! » Marie Magdala l'a vu elle-même, Jésus lui-même, « J'ai vu Jésus! » Ils sont allés le dire. Écoutez, si l'évangile n'était pas vrai, il n'y aurait pas cette scène-là dans l'évangile. Vous savez pourquoi? Des hommes n'auraient jamais accepté qu'on dise que c'est les femmes qui ont cru et pas eux. Jamais, au grand jamais, dans cette époque, est-ce qu'on aurait accepté une telle chose. Jamais! Il n'aurait pas inventé une histoire pareille, voyons donc! C'est pas faisable! Ça démontre la véracité de l'Évangile, et Dieu certainement le savait. Vous avez la preuve scientifique ici, historique, de la chose. Ça se faisait pas, là. On ne va pas donner ce rôle-là à des femmes. Là. C'est trop important, là. C'est trop pivotal dans la foi chrétienne. Et ces femmes, malgré les obstacles, elles se sont rendues au tombeau devant ce courage. Elles ont été choisies pour annoncer cette nouvelle incroyable. 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 Malgré le prix, il faut obéir à Dieu. Il faut partager notre foi. Il faut faire les choses que Dieu te met à cœur. Fais-les. Pour suivre Jésus, cinquièmement et dernièrement, il faut accepter la mission impossible de Dieu de partager la bonne nouvelle, car c'est dans l'application que la puissance de Dieu t'accompagnera. C'est dans l'application, c'est dans l'obéissance. Si tu n'obéis pas, il n'y a rien qui se passe. Si tu obéis, les signes miraculeux suivront. Croire, c'est un verbe. Ce n'est pas une affaire intellectuelle. Tu sais, tu peux croire que Hitler existait, c'est beau, mais ça ne change pas ta vie. Tu n'en as pas plus peur parce que tu n'as pas vécu les atrocités de Hitler. Croire en Jésus intellectuellement, c'est bien. Mais ça va avec un verbe. Si je vous dis qu'ici, faites attention, il y a une météorite qui tombe sur l'église, vous allez tous vous lever puis partir en courant si vous me croyez. Mais si vous ne me croyez pas, vous allez rester assis et me regarder. Ah oui! Vous comprenez? Donc, c'est une action, croire. C'est « Ah! » puis tu bouges. Alors, c'est ce que eux ont cru et les signes vont suivre. Nous voyons au travers des évangiles que les femmes ont vraiment partagé puis qu'après ça, on voit tout le déroulement. Puis il faut faire attention parce que des fois, on veut mettre le cheval avant la charrue. La charrue avant le cheval, pardon. Au lieu du cheval avant la charrue. Il faut avoir le cheval avant la charrue et non l'inverse pour que le bogey là, ou la charrue, ça fonctionne, parce que le cheval tire. Croire et obéir, ça vient avant les signes miraculeux. Parce que si nous croyons, nous faisons et Dieu t'accompagne. On le voit dans le texte quand il dit « Allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront les démons. Il fait la liste. Et ensuite, au verset 20, ça dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Deuxièmement, le Seigneur travaillait avec eux. Troisièmement, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il ne faut pas inverser ça. Il ne faut pas mettre « confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient ». Le Seigneur travaillait avec eux. Ils s'en allèrent prêcher partout. Est-ce que vous voyez? Mais souvent, c'est ce qu'on veut. Seigneur, donne-nous les miracles qui accompagnent. Là, tu travailles avec nous, puis là, on s'en va prêcher. Oh, oh! C'est pas ça qu'il dit, le texte. C'est pas ça qu'il dit. Et c'est important. Il y a un ordre chronologique. Il faut obéir. Et ensuite, les signes vont être là. Tu vois, des choses bien pratiques. Par exemple, moi, j'ai appris avec le temps, j'ai eu une croissance personnelle en 9 ans. J'ai commencé à faire du ministère dans l'église à 12 ans, là, avec les plus petits-enfants, à aider à l'école du dimanche, à faire du mime. J'ai été en France faire des mimes dans la rue et tout ça, des pantomimes. Et j'ai servi. Mais il y avait des choses dans lesquelles je ne comprenais pas encore. Que je n'avais pas encore compris en me mariant, en ayant des enfants. Là, j'ai commencé à comprendre des concepts nouveaux, comme la dîme. Oh, ça, c'est un peu complexe. Quand tu es jeune, tu n'as pas de travail. Tu donnes des fois des petits sous quand tu en as, quand tu peux. Mais là, la dîme, c'est devenu quelque chose de plus complexe. Alors, tranquillement, j'ai fait des pas de foi. J'ai dit, OK, on va donner. On commençait pas, bang, 10%, mais on a commencé par un petit peu. Puis là, le plus qu'on gagnait de confiance, on est arrivé à 10%. Puis maintenant, moi, j'ai juste à cœur, on a souvent eu à cœur, moi et Emmanuel, on ne va pas à une église, même si on va à Montréal, à Nouvelle-Vie, même si on va, on amène toujours quelque chose à Dieu. Toujours. Même, on calcule notre dîme, on la prépare, on a notre 10% à part, on le donne, mais des fois, on prépare même des offrandes. Ah, si j'ai déjà payé ma dîme à mon église, puis je m'en vais à Nouvelle-Vie, je vais donner quelque chose. Parce que je ne veux pas venir les mains vides, parce que Dieu t'a tellement fait pour moi, que moi, je te donne. Et c'est quelque chose que, c'est moi, personnellement, j'ai grandi là-dedans. Mais des petites choses comme ça, ce n'est pas facile. Mais c'est déjà un verbe. Croire est un verbe. Quand on croit en Dieu, Dieu, il nous voit à l'action. Et c'est bizarre, parce que le plus que, des fois, j'ai des tests incroyables de donner, plus, là, la dîme, ce n'est plus un défi pour moi, ça l'était avant, mais là, ça ne l'est plus, c'est des offrandes. Et pas longtemps passé, j'ai donné une offrande et j'ai eu un appel, comme j'ai eu un chèque dans la poste que je ne savais même pas que j'allais avoir, c'était des assurances de quand j'étais enfant, qui redonnaient. C'était un montant, mais j'ai dit, wow, où est-ce que ça vient? Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il vous surprend quand vous faites des pas de foi. C'est dans les petites choses. C'est dans les plus petites choses qui sont pas à vue de tout le monde. C'est comme, par exemple, comment je pourrais dire, comme les femmes. C'était pas vu de tout le monde qu'ils allaient aller embaumer Jésus. C'était pas acclamé. Mais dans ce petit acte-là, waouh, Dieu s'est manifesté d'une façon puissante. Donc, c'est juste d'avoir les valeurs qu'il faut, fondamentales, avoir les priorités et un désir de juste obéir. Puis tu vas voir les miracles après. Si je n'avais pas semé et donné, je sais que certaines choses que j'ai eues, que j'ai reçues, ne seraient pas arrivées. Il y a des choses que des fois Dieu nous surprend. Puis Dieu, il nous montre des affaires, des choses qu'on a vécues, moi et Emmanuel, personnellement, des victoires qui nous ont été données, que si on n'était pas obéissant dans les plus petites choses, ben on n'aurait pas eu ce fruit-là. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites, tu ne seras pas dans les grandes. Puis si tu n'es pas fidèle en partager ta foi dans des petites choses, tu ne seras pas dans les plus grandes. Puis des fois, on se crée des mensonges, on s'invente des histoires que si on aurait plus long, on donnerait plus, ou si on avait plus de possibilités, si on avait un meilleur vocabulaire pour parler aux gens, que là, on communiquerait la parole, mais parce qu'on n'a pas un bon vocabulaire ou parce qu'on n'est pas assez éduqué ou parce qu'on se met toujours des limites. Mais sois fidèle dans les choses que Dieu t'appelle, peu importe ce que c'est, que ce soit relationnel, financier, émotionnel, spirituel, peu importe, il veut que tu pries, puis il te met à cœur de prier telle heure le matin, mais tu ne le fais pas. Ouais, fais-le. Dieu va agir quand tu vas obéir. Pas avant, mais après. C'est là que tu vas voir des choses, puis ce n'est pas pour ça que tu le fais. C'est par amour pour Dieu. Parce que sinon, c'est encore, Dieu le sait, Dieu sait vos motifs. Mais c'est juste pour vous encourager dans la foi. Alors, il faut toujours se rappeler que dans les tempêtes de nos vies, dans les morts de nos vies, dans les circonstances de tombeau, Jésus est toujours là. Même quand il paraît absent, mort dans vos circonstances, même quand tu dis, « Bien, moi, tout va mal pour moi en ce moment », ne lâchez pas de le suivre, car c'est là où le miraculeux arrive et prendra place. Il y a des obstacles, mais dans votre persévérance, il va se manifester pleinement. Si tu ne persévères pas, tu ne l'auras pas. Puis il faut persévérer. Puis des fois, c'est dans les pires, comme tu penses que c'était fini. Là. Eux, ils pensaient qu'il était fini. Là. Ces femmes-là, ils pensaient que c'était fini. Là. Leur espoir était fini. Dieu s'est manifesté. A fait d'eux les premières évangélistes. A rendu l'évangile encore plus véridique. Aujourd'hui, de dire dans cette époque, ce n'était pas faisable. Dieu est bon, il sait ce qu'il fait. Alors, en conclusion, en ce jour de la fête des mères, et par l'exemple des femmes qu'on étudiait ce matin, qui suivirent Jésus jusqu'au tombeau, j'aimerais nous inciter à prendre la mission de Christ au sérieux. Est-ce qu'on prend vraiment sa mission quand il dit « Allez, faites de toutes les nations, allez prêcher la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. » Est-ce qu'on la prend au sérieux? Ou est-ce qu'on est, bof, moi, je viens à l'église pour mes besoins, puis pour me sentir bien, pour me faire quelques amis, et c'est tout. Dieu nous appelle à quelque chose. Et certains d'entre nous, on est hyperactifs comme des fourmis. Puis certains d'entre nous, pour plusieurs raisons, parfois c'est des blessures du passé, des échecs, ou la peur de l'échec, peu importe la raison, il y a eu un blocage dans votre cheminement spirituel. Il y a eu un blocage, il y a eu une décroissance au lieu d'une croissance. Et vous avez pris un peu de recul, peut-être par des distractions, parce que si l'ennemi ne vous a pas par la destruction, il peut vous avoir par la distraction ou par l'amertume. Puis vous avez inconsciemment suivi l'exemple de la cigale. Vous observez les fourmis travailler. Mais vous, c'est pas parce que vous êtes méchant, hein? C'est juste que peut-être vous y croyez plus autant. Peut-être vous n'avez plus autant d'amour, de passion pour Dieu, pour le royaume. Peut-être vous avez séché. Puis Dieu veut aujourd'hui vous toucher. Il veut vous ranimer. Il veut vous dire qu'il est là, qu'il vous pardonne et qu'il veut encore plus. Vous travaillez, vous transformez. Vous allez faire des choses que vous ne pensiez jamais vous pourriez faire. Puis il veut. Si vous me connaissiez il y a 10 ans, vous seriez dans l'étonnement de m'entendre prêcher ce matin ici. J'étais une des personnes les plus timides sur terre. Je me cachais derrière un masque de mime. J'avais peur du micro. J'avais peur, je tremblais. Mon micro s'en allait. J'avais peur d'être devant les gens. J'avais peur. J'étais vraiment timide. Et Dieu m'a travaillé. Et il m'a testé. Il m'a élargi. Et Dieu va faire la même chose avec vous. Si moi, je suis ici, puis je réponds à l'appel, vous aussi, vous pouvez répondre à l'appel. Ça ne peut pas nécessairement être prédication, mais ça peut être peu importe les dons qu'il vous a donnés. Ça peut être prier pour des gens. Prier pour des malades ou aider dans l'école du dimanche ou peu importe. Il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses que Dieu veut vous appeler à faire. Sommes-nous à l'œuvre comme ces femmes, en action, en mouvement? Ou est-ce qu'on est rendu stagnant, paralysé, comme les disciples cachés? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va arriver? Sommes-nous un témoignage pour notre entourage vis-à-vis de nos valeurs et nos priorités? Est-ce que les gens autour de vous disent « Wow, toi, il y a quelque chose de différent. » Il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose de différent. Et nos priorités, rappelez-vous, ne doivent pas dépendre de vos circonstances, mais elles doivent dépendre de vos valeurs. Tu vois, les femmes, leur priorité ne dépendait pas de la circonstance. La circonstance était mauvaise. Mais ces hommes, les disciples, ils étaient un peu dépendants des circonstances. Ils ont été chavirés par les circonstances. Et leur priorité n'était plus Jésus, c'était sauver leur peau. Mais ces femmes, à cause que leur priorité était dans les valeurs fondamentales qu'ils avaient, de leur amour pour Jésus, sont allées. Et sont allées pour l'embaumer. Alors, est-ce que nous sommes paralysés par la peur du rejet, de l'échec, par un désir de plaire aux autres? Qu'est-ce qui vous motive? Fermez vos yeux puis demandez-vous, quelle est ma motivation, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me parler ce matin, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire dans ça, Seigneur? Est-ce que je suis devenue paresseux? Est-ce que je suis devenue incrédule? Est-ce que je suis capable encore de parler de toi à des gens qui ne te connaissent pas? Est-ce que j'ai le courage de le faire? Est-ce que je suis devenu un chrétien confortable? Est-ce que je viens à l'église juste pour être servi? Ou est-ce que moi aussi je vais apporter quelque chose? Est-ce que je viens juste pour me sentir aimé et bien, cajolé? Ou est-ce que moi aussi je peux donner quelque chose? Est-ce que je suis devenu un chrétien du dimanche matin et que j'ai plus de temps pour toi la semaine? J'ai même pas ouvert ma Bible cette semaine. J'ai même pas prié. Est-ce que c'est ça qui m'est arrivé cette semaine? Seigneur, pardonne-moi. Puis je veux être plus qu'un chrétien du dimanche matin. Ce matin, j'ai vraiment un cœur qu'on remette nos cœurs entre les mains de Dieu pour dire, Seigneur, sonde mon cœur. Moi, je veux être comme ces femmes. Je veux avoir ce courage. Ces risques-là, je peux les prendre. C'est pas de foi, je veux les prendre. Cette assurance que peu importe, tu me tiens dans tes mains. Tu es avec moi. Même quand tu parais mort, t'es là. Il y a des circonstances, c'est la mort, c'est le divorce, c'est la perte d'emploi, c'est la mort. Mais il est là avec vous. Et on va suivre... Pierre va nous conduire en louange. J'aimerais qu'en louant Seigneur, vous vraiment vous dites, Seigneur, élargis-moi. Élargis-moi ce matin, Seigneur. Je veux être en mission. Je veux te suivre dans un monde à l'envers. Je veux pas, Seigneur, être comme le monde. Mais je veux influencer et avoir un impact sur ma famille, sur mon église et sur ma communauté. Amen.
Amen. Amen. Bonne fête des mères.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.